Bonsoir à tous. Leurs parents sont morts ou prisonniers en Syrie. 12 enfants de djihadistes français arrivent à Paris. On s'arrête sur leurs itinéraires déjà chaotiques dès le début du journal. Hommage national aux 3 sauveteurs de la SNSM. Ce sera jeudi au Sable d'Olonne. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron. Ils étaient 15 000 ce matin devant la plage où la tentative de sauvetage d'un chalutier a tourné au drame vendredi. Au sommaire également ce soir, le mariage Renault-Fiat, toujours d'actualité, à en croire Bruno Le Maire. Christian Jacob, poussé à la tête des Républicains, on verra ça. Game over pour Tony Parker, le basketteur français aux 4 titres NBA, arrête sa carrière. Et puis au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, au téléphone sonne, Sébastien, ce soir, vos vacances vertes, c'est devenu le dilemme de la transition écologique. Est-ce qu'on peut se dire écolo-responsable et continuer à prendre l'avion? Est-ce qu'on peut refuser le plastique, acheter des légumes en circuit court, mais aller au bout du monde? Est-ce qu'il y a un moyen de compenser, peut-être, pour ne pas renoncer à découvrir le monde? Est-ce qu'on peut être une sorte de flexitarien dans notre manière de voyager? 01 45 24 7000.
France Inter. Ils étaient 5 orphelins mi-mars ramenés de Syrie en France. Cette fois, ce sont 12 enfants de djihadistes français qui sont arrivés ce midi à Paris, remis aux autorités françaises par les Kurdes de Syrie, hier à la frontière avec la Turquie. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir.
Ces 12 enfants n'ont pas plus de 12 ans, certains sont malades et la plupart sont orphelins.
Et ces 12 enfants ont été rapatriés précisément soit parce qu'ils sont orphelins, soit parce qu'ils étaient isolés ou très vulnérables, explique le ministère des Affaires étrangères qui a assuré avec l'armée française ce nouveau rapatriement de fils et de filles de djihadistes français. Le gouvernement préfère ne pas détailler ces critères de vulnérabilité. En tout cas, parmi les enfants rapatriés aujourd'hui, 2 l'ont été avec l'accord de leur propre mère qui a choisi de les laisser partir en France en restant, elle, prisonnière des Kurdes à Rojas, ce qui est une première. Comme en mars dernier, tous les enfants sont rentrés sans parents, vous l'avez dit, comme en mars dernier, ce sont de jeunes enfants. Le plus petit est un bébé d'un an, le plus âgé a 12 ans. Certains ont été rapatriés avec un frère ou une sœur, mais d'autres avaient tout perdu sous le califat de Daesh, comme ce garçon, seul survivant après le bombardement qui a tué son père, sa mère, tous ses frères et sœurs, peu avant la chute de Baghouz. Cet enfant rentre d'ailleurs avec une blessure de guerre, en partie guérie seulement. Comme tous les autres, il a commencé à subir des examens médicaux. Tous ces enfants étaient dénutris et leur retour s'imposait, se félicite l'avocate Samia Maktouf, qui défend un grand-père qui se battait pour le retour de son petit-fils.
C'est des enfants victimes. Nous ne sommes pas dans l'hypothèse d'enfants soldats. Nous ne sommes pas dans l'hypothèse d'enfants qui auraient choisi de combattre ou de vivre ou de prêter allégeance à un État terroriste. Donc oui, je ne peux que me réjouir parce que c'est des enfants qui ont vécu un traumatisme tel que il fallait les sauver.
Ces 12 enfants français ont été placés auprès de l'aide sociale à l'enfance, considérés comme des enfants en danger, mais il reste 200 enfants français à rapatrier avec leur mère, clame ce soir dans un communiqué l'avocate Marie Dosé.
Oui, d'après le Quai d'Orsay, merci Sophie, 450 Français liés au groupe État islamique sont en prison ou dans des camps de réfugiés dans le nord de la Syrie. La moitié sont des enfants et avec ceux qui sont rentrés aujourd'hui, il y avait 2 enfants néerlandais qui ont été remis aux Pays-Bas. Autre pays, mais là aussi conséquence de la violence djihadiste, le Mali, où des groupuscules viennent recruter des combattants depuis 2015. Le Mali qui se retrouve confronté à ce qui ressemble de plus en plus à une guerre interethnique comme au Burkina et au Niger, entre les peuls éleveurs qui grossissent les rangs d'un prédicateur du centre du pays et les Bambara et les Dogons agriculteurs. Hier soir, c'est un village Dogon de quelques 300 habitants qui a été attaqué par des hommes armés. Ils ont pillé, tué et brûlé une centaine de personnes. Marie Matigo est à Bamako pour Inter.
C'est horrible, a lâché au téléphone le maire de la commune de Sanga où se trouve le village attaqué. Il décrit un village quasi entièrement brûlé, de nombreux corps sont calcinés, difficilement identifiables. Certains ont même été totalement réduits en cendres. Le village Dogon de Sobankou a été encerclé hier vers 17h, puis les assaillants ont mis le feu aux cases. Ils ont abattu les habitants qui essayaient de s'enfuir. Les forces de sécurité maliennes, elles, ne sont arrivées sur les lieux que ce matin. Difficile de connaître pour l'instant l'identité des assaillants. Selon le maire, des survivants affirment qu'ils parlent peul. Dans le centre du Mali, les peul et les Dogons notamment se sont organisés en groupes d'autodéfense dans une zone où la menace djihadiste est aussi présente. Les conflits intercommunautaires et les nombreuses représailles ont fait plus de 250 morts civiles depuis le début de l'année selon la MINUSMA. Ainsi, le 23 mars dernier, c'était le village peul d'Ogossagou qui avait été attaqué par des chasseurs Dogons. Attaque qui avait fait près de 160 morts. C'est la pire tuerie depuis la crise de 2012 au Mali. Bamako, Marie Matigo, France Inter.
Précisons que la MINUSMA, c'est la force des Nations Unies pour le Mali. Une autre attaque a fait au moins 19 morts hier après-midi dans le nord du Burkina Faso. Attaque attribuée là aussi à des groupes djihadistes.
C'est l'image du jour au Sable d'Olonne.
Les sauveteurs en mer dans leur tenue orange, suivis par quelques 15 000 personnes pour rendre hommage aux trois secouristes volontaires morts vendredi en tentant de sauver un pêcheur lui aussi disparu. Marche en silence avant de déposer des fleurs devant la plage où le drame a eu lieu. Cornes de brume et fumigènes d'une centaine de bateaux au large. Jacques ne pouvait pas ne pas être présent.
Je viens avec trois roses, une pour chaque gars qui est mort. Et puis je viens avec une profonde tristesse. Je pense à toute leur famille, je pense à tous les marins qui aujourd'hui sont dans la douleur. Et c'est totalement indispensable d'être là pour rendre hommage à ces gars qui sont morts en véritables héros. J'ai personnellement un bateau, ce sont mes anges gardiens. Quand je suis sur l'eau, je sais que je peux compter sur eux et c'est un devoir pour moi d'être là. C'est une forme de respect, d'hommage. Et puis si on ne sait pas dire merci aux gens quand dans des grandes occasions comme ça, eh bien, je crois qu'on n'a pas compris ce qu'était la mer. La mer, c'est une grande solidarité et qui va jusqu'à l'abnégation totale. Eux ont donné leur vie pour nous.
Un habitant des Sables d'Olonne, lui-même marin, au micro de Grégory Julien. Un hommage national sera donc présidé par Emmanuel Macron et sera rendu aux sauveteurs disparus jeudi matin aux Sables d'Olonne. Tous les trois seront faits chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. Un jeune homme de 20 ans recherché à Lorient, il a percuté deux enfants hier à la sortie d'un rond-point pour échapper à un contrôle. Au volant de la voiture de sa mère et alors qu'il n'a pas le permis, le chauffard et sa passagère de 21 ans ont pris la fuite. L'aîné des enfants, 10 ans, est mort, son frère de 7 ans, toujours en urgence absolue à l'hôpital. La maison de Latifa Ibn Ziaten taguée la nuit dernière près de Rouen. Les inscriptions « Vive Mera »,« Juif bientôt mort » ou encore « C'est bientôt à toi ». Latifa Ibn Ziaten, dont le fils a été tué par Mohamed Mera en 2012 à Toulouse, a porté plainte.
Il est 19h presque 8. Sébastien, la fusion Renault-Fiat n'est peut-être pas enterrée.
En tout cas, c'est ce que laisse entendre le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, en déplacement au Japon. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Pour le patron de Bercy, l'idée de rapprocher le groupe italien et le constructeur français reste une belle opportunité.
Oui, une belle opportunité. Les mots semblent peser comme pour donner un avenir possible à un dossier que certains avaient déjà commencé à enterrer jeudi dernier. Au moment de la rupture entre les deux groupes, Bercy avait certes affirmé ne fermer aucune porte, mais le contact paraissait difficile à rétablir. Le moteur avait l'air grippé. Aujourd'hui, on a l'impression que le projet pourrait tout à fait repartir.
Qu'en dit-on en interne chez Renault?
Eh bien, en interne, on l'avoue, en vrai, Renault et Fiat n'ont jamais cessé de se parler entre l'Italie et la France. On n'a pas stoppé comme ça les échanges du jour au lendemain. Car chez Renault, si les syndicats sont mitigés, pour certains clairement rassurés que l'affaire n'ait pas été conclue, tant les dirigeants de Fiat étaient flous sur leurs intentions, en haut lieu, on ne peut s'empêcher de regretter l'issue des discussions. On était tout proche d'annoncer une belle nouvelle industrielle et puis tout s'est écroulé, lâche un cadre chez Renault. Le président de l'Alliance, Jean-Dominique Senard, le premier, était très enthousiaste, mais le vrai sujet, commente une source proche du dossier, c'est de savoir comment sécuriser un tel projet, comment éviter, je cite, que Fiat ne bouffe Renault à l'avenir. Et si le rêve des Italiens était tout simplement de signer très vite avec Renault en espérant un divorce avec Nissan derrière, ce qui aurait pour conséquence d'isoler le constructeur français. À Bercy, comme pour beaucoup chez Renault, on en est plus que jamais persuadé. Avant toute chose, il faut consolider l'alliance avec les Japonais.
À la page écho encore, merci Maxime Debs. Cette nouvelle menace de Donald Trump sur le vin français. Le locataire de la Maison Blanche trouve que le vin américain est victime d'une concurrence déloyale et il laisse entendre que les bouteilles tricolores pourraient être taxées. La politique en France est la suite du feuilleton des Républicains. Alors on rappelle les épisodes précédents. Laurent a largement perdu les élections européennes. On lui a suggéré de partir et il a démissionné une semaine après. Gérard pensait les sauver, mais Valérie est aussi partie. Elle trouve LR cadenassée et elle voudrait bien qu'on la voie comme la nouvelle meneuse d'une droite moderne, sauf que la droite n'a pas l'air de penser à elle maintenant qu'elle l'a quittée. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Ni Wauquiez, ni Pécresse, ni Larcher. Le nom qui sort le plus, c'est celui de Christian Jacob.
Oui, Christian Jacob, chef de file des LR à l'Assemblée, pourrait bien plier le match de la succession à la tête du parti. Depuis quelques jours, cet ancien chiracien à la loyauté sans faille engrange les soutiens du sarkozyste Brice Hortefeux au député Aurélien Pradier. Tous vantent sa solidarité fluidité, son expérience, sa capacité aussi à faire consensus, le seul à pouvoir stabiliser le navire, selon la secrétaire générale Annie Genevard. Peu d'obstacles donc à cette candidature dans l'autre palais, celui du Luxembourg. Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, n'a certes pas encore pris de décision officielle, mais il ne se présentera jamais face à Christian Jacob, nous assure son entourage. Les deux hommes qui se sont laissés une dizaine de jours pour consulter, réfléchir, on en profite surtout pour faire pression, explique un proche de Bruno Retailleau, pour qu'une véritable révolution ait lieu au sein du parti. Mais pour cet autre potentiel candidat à la présidence, Jacob est malheureusement le candidat des barons qui veulent au contraire que rien ne bouge jusqu'au municipal. Et après, me direz-vous, après, ironise un observateur, ils attendent le vrai messie qui pourrait sauver la droite.
C'est qui ?
Et là, un nom circule, celui de François Baroin.
François Baroin, le patron de l'Association des maires de France, en sauveur des Républicains. Merci Élodie Forêt. Un proche de Bouteflika de plus incarcéré en Algérie, l'homme d'affaires Maïdine Takout, patron notamment d'une usine de montage automobile. Il est en détention préventive, Nathanaël Charbonnier, pour corruption et blanchiment d'argent.
C'est toute la famille de l'entrepreneur qui se trouve aujourd'hui dans le viseur de la justice, car outre Maïdine Takout, les juges interrogent également ses deux frères, mais aussi son fils. Et la liste ne s'arrête pas là, puisque sont entendus également dans le cadre de la même enquête l'ex-premier ministre, des cadres de différentes administrations, ainsi que des hauts fonctionnaires. En résumé, ce sont tous d'anciens proches de l'ex-président Bouteflika. En cause des faits de corruption et de blanchiment d'argent. Plus concrètement, Maïdine Takout est accusé d'avoir obtenu des privilèges indus de la part de beaucoup de monde, et notamment du monde bien placé dans la hiérarchie de l'ancien pouvoir. Marchés publics, avantages divers et variés, c'était l'époque où le camp Bouteflika gérait les affaires du pays, temps révolu depuis le 2 avril, date à laquelle l'ancien président a quitté ses fonctions. Maïdine Takout, face à la justice, il rejoint d'autres hommes d'affaires, eux aussi en difficulté depuis le changement de pouvoir, dont notamment Ali Haddad, leader du BTP algérien et ancien patron des patrons. Tous ont en commun d'avoir financé la campagne de 2014 de l'ancien président et tous auraient bénéficié d'importants contrats en échange.
Bras de fer aussi entre le pouvoir et la rue à Hong Kong où le gouvernement ne cède pas. Manifestation de centaines de milliers de personnes hier contre un projet de loi qui prévoit de permettre les extraditions vers la Chine. La chef de l'exécutif confirme que le texte sera examiné mercredi par le Parlement local où ses opposants appellent d'ores et déjà à manifester. Pékin promet de son côté de soutenir fermement le gouvernement de Hong Kong. Direction la Suisse à présent, alors que l'affaire Vincent Lambert n'en finit pas de relancer le débat sur la fin de vie en France. Chez nos voisins, on ne parle pas d'euthanasie mais de suicide assisté et leur nombre ne fait qu'augmenter chaque année, notamment avec les étrangers qui gagnent l'autre rive du Léman pour bénéficier de cet accompagnement. Certains, Jérémy Lange, y voient une privatisation de la mort.
Tout à coup, une lettre écrite dans la boîte aux lettres « Je vais mourir mardi 18 ». Vlan.
Plus de 2 ans après le décès de son frère, Claude Mermot ne décolère pas contre ce qu'il appelle la banalisation du suicide assisté. Ce fringant septuagénaire se dit pourtant favorable à l'euthanasie pour des personnes en fin de vie, sauf que son frère Charles n'était pas gravement malade, mais simplement âgé.
Il avait conclu sa lettre en me disant « Écoute, si jamais ça te perturbe, je peux t'aider. » Pour pouvoir faire un départ avec un au revoir harmonieux. Mais un au revoir harmonieux quand le gars est en bonne santé, ça fait problème.
Malgré une décision de justice qui suspend la procédure, Charles se donnera la mort quelques semaines plus tard. Claude Mermot mène depuis une bataille contre les associations d'aide au suicide. Les demandes d'adhésion explosent depuis plusieurs années. Gabriella Jonin est accompagnatrice pour l'association Exit.
Depuis le début de cette année, on a 40% d'augmentation des personnes qui s'inscrivent. C'est pour eux une sécurité de se dire, si un jour il nous arrive quelque chose, on a ce choix.
Plusieurs conditions sont requises. Avoir sa capacité de discernement, pouvoir réaliser le dernier geste. Le code pénal suisse ne pose finalement qu'une seule limite. L'aidant ne peut pas bénéficier de la mort de la personne.
On a beaucoup de chance. On envie beaucoup de pays voisins. Moi, je dis toujours que c'est une assurance pour une bonne mort choisie.
Un peu plus de 1200 personnes sont mortes avec l'aide d'Exit l'an passé. En tout, l'association estime que l'aide au suicide représente 1,5% de tous les décès en Suisse. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Des irrégularités, peu de place à la critique du pouvoir, respect insuffisant des normes démocratiques. Voilà comment les observateurs internationaux parlent de la présidentielle d'hier au Kazakhstan, remportée par le chef de l'État par intérim. Kassim Jomart Tokayev avec plus de 70% des voix. Il était soutenu par l'ancien président Nazarbayev et sa victoire ne faisait aucun doute.
Tony Parker quitte les parquets.
Oui, le basketteur de 37 ans annonce qu'il met un terme à sa carrière. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Sébastien.
Parker, c'est l'un des plus beaux palmarès du basket français, mais son départ n'est pas franchement une surprise.
Ouais, Tony Parker, 37 ans, vient de vivre la saison la plus frustrante de sa carrière dans une équipe moyenne, les Charlotte Hornets, au sein de laquelle il a assez peu joué et donc assez peu brillé. Situation d'autant plus difficile à vivre pour lui qu'il venait de passer 17 ans dans une très grande équipe, les Spurs de San Antonio, avec laquelle il a remporté 4 titres de champion NBA et disputé chaque année les phases finales. San Antonio, où Tony Parker est arrivé à 19 ans, très vite il s'impose comme l'un des joueurs clés. En 2003, il devient le premier joueur français à décrocher le titre NBA. En 2007, il est même élu meilleur joueur de la finale. Un palmarès exceptionnel aux États-Unis et une fidélité sans faille à l'équipe de France. 181 sélections chez les Bleus, où il a joué constamment un rôle de leader, avec en point d'orgue le titre de champion d'Europe en 2013, le seul de l'histoire du basket français. Par son palmarès, son aura, sa notoriété, Tony Parker a beaucoup contribué au rayonnement et au développement du basket en France. Sa carrière de joueur professionnel est close, mais pas sa vie dans le basket, car depuis 2 ans, Tony Parker est propriétaire du club de l'ASVEL.
L'ASVEL à Villeurbanne, merci Vincent Pellegrini. Son roman faisait partie des livres marquants de la rentrée littéraire à l'automne dernier, finaliste du Fémina et du Médicis. Emmanuel Bayamaktam décroche le livre Inter 2019 pour Arcadie, publié chez POL. L'histoire d'une communauté du sud-est de la France et de ses amours par-delà les sexes et les âges. Le jury d'auditeurs d'Inter, présidé cette année par Riyad Satouf, a été séduit par ce récit subversif et érudit. Quand on dit des mots trop compliqués,
voilà,
on se casse la gueule. Après 2 jours de débat exclusivement consacrés aux ouvrages, comme le raconte Joséphine Galerjude, sartoise en recherche d'emploi de 28 ans, elle en faisait partie.
On commence à parler de quelque chose d'autre et paf, on revient sur ou bien le livre qui a été primé, Arcadie, ou bien des livres qu'on a moins aimés et sur lesquels on donne encore à nouveau quelques explications. Et le fait de pouvoir poursuivre justement cette rencontre sur 48 heures, ça permet de dire ce qu'on n'a pas pu dire au débat, de le dire ensuite de manière un petit peu plus tranquille avec les personnes et avec cette affinité grandissant au fur et à mesure des heures passées ensemble. On peut parler de communauté de lecteurs, et en espérant que ça continue, c'est ce qu'on s'est dit avec beaucoup, qu'on aimerait beaucoup rester en contact et pourquoi pas échanger à nouveau sur des lectures. Moi, ça me tient à cœur, j'aimerais beaucoup. Oui.
La jurée du livre Inter, Joséphine Galerjude, avec Jacqueline Petros-Arcadie d'Emmanuel Bayamaktam, est publié chez POL. On termine avec le début ce soir du Festival du film d'animation d'Annecy. 6 jours, 500 films et un fil rouge, le Japon, pays pionnier en matière de dessins animés, de Goldorak à Miyazaki. Et pourtant, la France aussi a des talents dans ce domaine, notamment grâce à l'école des Gobelins à Paris, qui sera présente au festival comme chaque année, Mathieu Culeron, avec le travail de certains étudiants.
Entre le Festival d'Annecy et l'École des Gobelins, c'est un partenariat qui dure depuis près de 30 ans. Les jeunes talents de l'animation française se retrouvent tous pour diffuser leur production de l'année. Moira Marguin est responsable du cinéma d'animation au Gobelin.
Nos étudiants de deuxième année, donc qui clôturent un premier cycle dans notre programme, ont un film de commande à réaliser. Ce film de commande, c'est le film d'ouverture du Festival d'Annecy. Donc on en produit 5 pour chaque jour du festival. Pour nos étudiants qui, eux, vont être diplômés à la fin du mois de juin, on organise un speed recruiting lors duquel on invite tous les studios présents à Annecy qui souhaitent recruter à rencontrer donc ces étudiants presque sortants.
Quentin et Claire sont en deuxième année à l'École des Gobelins et seront projetés sur grand écran au Festival d'Annecy.
Bah, Annecy, il y aura vraiment tout le monde, tout le milieu de l'animation, donc c'est vraiment super intéressant pour nous d'y aller, pour rencontrer les professionnels et les étudiants de l'animation.
On peut montrer notre travail à des professionnels. Donc c'est un peu flippant, mais en même temps on est un peu impatient de voir comment ça va être reçu et comment ça rendra sur grand écran.
Tous les jeunes fraîchement sortis de l'École des Gobelins savent que des professionnels les attendent à la sortie du Festival d'Annecy. Chaque année, les speed meetings augmentent et cette année encore, il a fallu rajouter des tables, preuve de la tonicité de la French Touch en matière d'animation dans le monde.
Mathieu Culeron, le Festival du film d'animation d'Annecy, c'est à partir de ce soir et c'est un partenariat France Inter, Fabienne.
Eh bien comme ça, tout est dit, Sébastien Paour, merci beaucoup.